Bon mardi soir, mesdames et messieurs. Bienvenue aux amateurs de sport, édition du 3 août 2021. Quelle journée, encore une fois, on a eue. Je parle côté température. Là, je sais que les vacances de la construction sont terminées, mais ceux qui sont en plein dans leurs vacances, je vous en souhaite de très bonnes, de très belles également. Profitez-en bien. Merci beaucoup de nous accompagner jusqu'à 21h sur l'ensemble du réseau Cogeco pour cette édition des amateurs de sport. Plein de sujets variés encore une fois aujourd'hui. Évidemment, on va aller faire un tour du côté de Tokyo. Marc Durand est là, il va participer, lui, il va assister à la compétition du 200 mètres en athlétisme. André Degrasse et son compatriote canadien, M. Brown, qui vont participer à la finale. Donc, on va parler avec Marc Durand un petit peu plus tard au cours de l'émission. Il était là, lui, hier, pour la médaille de bronze de Simon Biles, qui était de retour à la compétition. Alors, Marc va nous parler de son expérience un peu plus tard à l'émission. On va parler aussi de tennis avec Eugène Lapierre, qui est le directeur de l'Omnium de la Banque nationale, qui aura lieu la semaine prochaine. En fait, ça commence vendredi le 6 août, il y aura le tirage au sort et puis ensuite ce sera le tournoi la semaine prochaine au stade IGA. Malheureusement, M. Lapierre, qui a obtenu de très mauvaises nouvelles aujourd'hui, Naomi Osaka, entre autres, se désiste de ce tournoi qui commence la semaine prochaine. Donc, on va lui poser des questions également sur toutes les mesures sanitaires, le nombre de spectateurs qui seront admis lors de l'événement. Donc, Eugène Lapierre aux alentours de 19h30. On va parler à Alex Agostino également de baseball, des Blue Jays, d'Abraham Toro, qui est incroyable depuis sa venue avec les Mariners de Seattle. Ray Lalonde sera avec nous pour la chronique Sport Business. On va entre autres parler des conséquences de cette transaction des Golden Knights. Parce que, est-ce qu'il y aura des conséquences? On ne sait pas trop, mais c'est un geste quand même qui en a surpris plusieurs, dont le premier, Marc-André Fleury, les Golden Knights, qui l'ont échangé aux Blackhawks de Chicago. Soit dit en passant, Marc-André Fleury qui demain va rencontrer les médias pour la première fois. Mais pour commencer l'émission, Philippe Quentin est avec nous. Je suis bien content de lui parler de hockey, mais d'abord et avant tout des Jeux olympiques. Salut Philippe!
Salut Yannick!
Bien content de te parler. Tu passes un bel été?
Oui, un été magnifique. Je joue un peu au golf. Je me promène un peu au Québec. Alors, tout va très bien. Puis je suis évidemment à les Jeux olympiques comme tout le monde. Et puis le hockey, bien sûr.
Alors, qu'est-ce que tu penses des Jeux olympiques depuis le début de cette quinzaine? Qu'est-ce qui a attiré ton attention?
Ben, je te dirais que d'abord, c'est que c'est pas le désastre appréhendé au niveau de la COVID. Ça, je pense que tout de suite, en partant, c'est une bonne nouvelle. C'est pas très inquiétant dans la semaine qui a précédé les Jeux, là. Il y avait des cas qui augmentaient, puis la situation sanitaire au Japon était vraiment très inquiétante. Or là, le pire jusqu'à maintenant semble évité. Le sujet tranquillement fait moins la manchette. On se concentre sur le sport, puis je pense que c'était ça qui était le plus important pour les Jeux de Tokyo. C'est-à-dire que ce soit pas des Jeux où on parlera tous les jours de la COVID, puis avec des inquiétudes, puis est-ce que les Jeux vont se poursuivre, est-ce qu'il va falloir les suspendre. Ça, je pense que c'est une inquiétude réelle pour les organisateurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, ils l'ont pas déclaré en conférence de presse, mais ils sont toujours très inquiets, les dirigeants du mouvement olympique. Yannick, face à la tenue des Jeux quand il y a un problème qui se dessine. Et je vais tout simplement te remettre en contexte les Jeux de 2018, les Jeux d'hiver à Pyeongchang. Mm-hmm. La dernière conférence de presse du président du Comité international olympique, Thomas Bach, la dernière journée des Jeux, j'étais là, j'y ai assisté, puis il a dit à tous les journalistes qui étaient réunis, il a dit, écoutez, vous savez pas à quel point ces Jeux-là sont venus près d'être annulés et pourquoi c'est en raison des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis à l'époque. Alors, tu sais, ils sont toujours très inquiets. Alors là, le fait que ça se passe bien. On est déjà dans la dernière semaine. On s'en va tranquillement vers le fil d'arrivée. Ça, je pense que pour le mouvement olympique, c'est un gros, gros soulagement.
Et sur le plan sportif, Philippe, es-tu sur le bout de ton siège? Qu'est-ce qui a attiré ton attention côté compétition?
Ben oui, souvent. C'est sûr que c'est plus difficile à suivre des fois. Là.
En pleine nuit?
J'aurais aimé ça me lever pour Jennifer Abel à 4h du matin, mais je l'ai pas fait. Alors, on se reprend le matin et on regarde ça tard le soir. Mais je te dirais que pour moi, là, Évidemment, la victoire de l'équipe canadienne contre les Américaines au soccer, j'ai trouvé ça assez fantastique parce que tout le monde a parlé que c'était un peu un sentiment de vengeance là face à, après la défaite de 2012, les États-Unis qui avaient battu le Canada dans le match qui permettait d'accéder à la finale, une décision très controversée de l'arbitre qui avait donné un pénalité aux Américaines, ça leur avait permis d'égaler le pointage, de gagner en prolongation. Et j'ai couvert les Jeux de 2012, j'étais là à ce match-là, c'était à Manchester, dans le mythique stade de Manchester United. Christine Sinclair avait fait une performance magique. Le Canada avait perdu 4-3. Elle avait marqué les trois buts du Canada, même si elle était surveillée du début à la fin. Moi, c'est un des grands moments sportifs que j'ai vu dans ma vie. Et après le match, j'ai jamais vu, je pense, une athlète aussi en colère que Christine Sinclair. Écoute, il n'y a rien qu'elle n'avait pas dit sur l'arbitre, sur sa colère, sa déception. Elle était enragée, elle trouvait que c'était profondément injuste. D'ailleurs, elle a eu des sanctions disciplinaires plus tard, là, après les Olympiques, en raison de ses déclarations d'après le match. Alors, tu sens que ça, là, c'est un match qui est resté dans la mémoire de Christine Sinclair. Puis Christine Sinclair n'occupe plus le même rôle au sein de l'équipe, mais on sait bien que c'est elle la leader, c'est elle la grande meneuse de ce club-là. Alors, de voir que oui, 9 ans plus tard, les Canadiennes ont enfin battu les Américaines, qu'elles se sont crues jusqu'au bout, moi, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Alors, pour moi, c'est un grand, grand moment des Jeux Olympiques.
J'aimerais t'entendre sur une situation qui est arrivée aux Jeux en fin de semaine. Les deux sauteurs en hauteur qui se retrouvent nez à nez, puis on voit clairement un officiel arriver pour demander à un des deux, bon, écoutez, êtes-vous prêt pour aller en prolongation? Puis là, il y a un des athlètes qui dit, écoute, est-ce qu'on pourrait avoir 2 médailles d'or? Il y a 2 écoles de pensée là-dedans.
Ouais.
Donc finalement, il y en a qui ont dit... ben bravo, ce sont des valeurs véhiculées par le Comité international olympique. C'est ça, les Jeux olympiques, l'entraide, la camaraderie. Alors que d'autres se sont dit, on comprend tout ça, mais en fin de compte, on aurait aimé que les deux se poussent à la limite et se poussent au bord de perdre finalement la médaille d'or, parce que pour faire un gagnant et pour faire un perdant, de quelle école de pensée tu te situes, toi?
Moi, j'ai été déçu par la fin de la compétition. Celle-là, je l'ai écoutée en direct, puis j'ai bien vu là quand le Qatarite demande à l'arbitre, hey, est-ce qu'on aurait tous les deux des médailles d'or? Puis l'arbitre dit, oui, vous aurez tous les deux une médaille d'or. Là, yes! Puis là, ils s'embrassent les deux, puis l'affaire est réglée. Ce que je comprends pas du tout, c'est ce règlement-là qui donne le choix aux athlètes.
Ouais.
Pour moi, c'est pas aux athlètes d'avoir le choix. Il y a une compétition, il y a des règles. En tant que s'il y a une égalité, là, on fait quoi? C'est supposé être suivi par les règlements, là. On verrait pas ça dans d'autres sports, je pense, là, arriver puis dire ben écoutez, c'est nul, tu sais, les deux équipes après 7 matchs de Coupe Stanley en prolongation, après 2 prolongations, c'est toujours égal. Non, j'ai vu que Coupe Stanley cette année, vous allez savoir ça comme une. J'ironise un peu, là, c'est sûr, c'est pas la même chose. Mais tu sais, le sport, l'idée du sport, c'est d'avoir un vainqueur. C'est sûr que si dans une course un 100 mètres ou une course en natation, ça arrive qu'il y ait 2 médailles d'or quand le temps est exactement identique, mais le règlement est prévu comme ça. On donne les 2 médailles ou on va donner 2 médailles de bronze s'il y en a 2 qui sont en 3e place avec un temps identique. Mais le règlement est là. Ce que j'ai pas aimé, moi, là-dedans, c'est qu'ils avaient le choix. On laisse le choix aux athlètes.
Exact.
C'est ça que j'ai pas aimé. Et là, c'est 2 amis. Les 2 étaient contents, mais si ça avait été 2 sauteurs, 2 athlètes qui s'aiment pas, tu sais, qui ont des différends sur les terrains depuis des années, la décision aurait peut-être été différente. Cela dit, ça a été ma réaction initiale, Yannick, mais par la suite, j'ai regardé sur Twitter, puis il y a beaucoup de gens qui ont dit, écoutez, c'est fantastique, c'est ça le sport, c'est merveilleux, tout l'argument que tu as mentionné tantôt. Puis là, j'ai été quand même un petit peu plus sensibilisé à ça, puis je me suis dit, écoute, on est une année de pandémie, on est dans un moment tellement difficile partout sur la planète avec la pandémie. Là arrivent ces 2 gars-là qui nous donnent un exemple de solidarité puis qui disent, ah, regarde, là, on va gagner ensemble, puis ben des gens qui ont trouvé ça beau. Alors tu sais, j'ai trouvé ça moins pire à partir de ce moment-là. Je comprends très bien cet argument-là. Je comprends très bien qu'on peut être profondément touché par leur décision, qu'on a trouvé ça très sympathique quand ils se sont sautés dans les bras et ont célébré ensemble leur victoire. Mais l'amateur de sport en moi aurait aimé voir une explication finale. La compétition est extraordinaire depuis le début. Mais c'est sûr que là, ils étaient rendus, je pense, à 2,39 m.
Exact.
Ils avaient sauté 2,39 m. Ils n'étaient pas capables, ni l'un ni l'autre. Et ils avaient sauté beaucoup depuis le début. Est-ce qu'il leur en restait encore dedans, tu sais? Je sais pas comment la prolongation, comment ça serait passé, mais s'ils passaient pas le 2,39 m, quoi, il aurait fallu qu'ils recommencent plus bas à 2,35 m. Puis là, tu passes 2,37 m. Puis finalement, tu vas gagner ta médaille en sautant 2,35 m en prolongation. C'est vrai que ça aussi, c'est un peu bizarre. Alors, dans le contexte actuel de la pandémie, ça passe, mais moi, je pense que la Fédération d'athlétisme devrait trouver une solution et pas laisser le choix aux athlètes, parce que je trouve que là, c'est un peu aléatoire.
Et surtout, pour conclure sur le dossier, c'est que les deux athlètes décident tout de suite, oui, on veut la médaille d'or. Les deux athlètes ne se retirent pas pour aller, je sais pas, moi, voir leur entourage pour discuter un peu. OK, on fait tout ça ou on s'en... Alors, tout de suite, c'est médaille d'or. Merci, bonsoir. Puis on passe à un autre appel.
Ah, mais ça a été rapide. D'un autre côté, hey, on dit que les Jeux, c'est l'amitié entre les peuples.
C'est ça.
Le monde entier qui se réunit puis qui célèbre dans la joie et l'allégresse. Puis on le sait que dans le fond, c'est pas toujours ça. De même, c'est rarement ça. Mais là, ça a été ça. Alors, de ce côté-là, j'ai trouvé ça quand même sympathique. Mais je te dirais que j'ai trouvé ça sympathique après coup, après avoir été un peu sensibilisé à cet argument.
Philippe, je vais profiter de ta présence pour parler un petit peu de hockey. On a vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment, là, un amateur qui se photographie avec Jonathan Drouin à sa sortie du centre d'entraînement du côté de Brossard. On dit qu'il a repris l'entraînement. Jonathan Drouin, qui, on se disait, a peut-être disputé son dernier match avec le Canadien. Une bonne nouvelle qu'il soit de retour à l'entraînement, Jonathan Drouin?
Ouais, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que d'abord, il se sent assez bien pour s'entraîner. On sait, là, Jonathan Drouin, il adore le hockey. Là. C'est un malade de hockey. Il est fou de ça, jouer au hockey. Alors que là, il puisse retrouver la patinoire, patiner, faire des lancers, tout ça. Je trouve ça une très, très bonne nouvelle. Puis encore une fois, t'as tellement raison de le mentionner. Je pense que tout le monde a pris pour acquis là, que Jonathan, il y a à peu près 2 ou 3 semaines que Jonathan Drouin avait joué son dernier match avec le Canadien, que serait changé, puis que, tu sais, c'est sûr qu'il pouvait pas poursuivre à Montréal et tout. Et là, tu sais, pense-y pourquoi, au fond, là, tu sais. Je veux dire, s'il y a eu un problème, puis là, il l'a réglé, puis qu'il se sent bien, puis qu'il se sent à l'aise pour jouer au hockey, ben, tu sais, c'est un excellent joueur. Le Canadien va l'accueillir avec succès, avec plaisir, là, s'il est capable de redevenir le Jonathan Drouin, dont on a eu des flashs à quelques moments depuis le début de son arrivée à Montréal. Ça n'a pas été constant, je sais bien. Il y a eu des flashs qui ont duré des fois 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Après, ça ralentissait un peu, mais on sait quand même que c'est un gars qui a un talent extraordinaire puis qui est le fun à voir jouer. Moi, je trouve que ça serait quelque chose d'extraordinaire que Jonathan Drouin redevienne un régulier dans la formation du Canadien, parce que ça prouverait que tu es capable d'être confronté à des problèmes personnels difficiles qui t'obligent à quitter ton équipe. Tu es capable de les régler, puis tu es capable de revenir. Ce sera un message extraordinaire à envoyer à tout le monde en termes de résilience. Et si lui se sent assez fort pour faire ça, moi, je pense que le public va l'appuyer. Puis quand je parle du public, je parle pas des réseaux sociaux. J'espère qu'il va arrêter de lire les réseaux sociaux, là, parce que les réseaux sociaux, c'est facile, c'est anonyme. Les gens disent beaucoup de méchanceté là-dedans, du vide de cœur, bon, tout ça. Mais je pense que la première fois qu'il mettrait le pied sur la patinoire au Centre Bell ou à la présentation des joueurs, s'il y a de l'alignement au premier match de la saison, moi, je pense qu'il y aurait une ovation debout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. On sait pas exactement ce qui est arrivé à Jonathan Drouin, là. C'est demeuré secret. Mais on sait qu'il y a eu un problème. Puis dans la vie, on a tous des problèmes. Puis il faut savoir les traverser. Tu sais, il y a le vieux dicton qui dit, dans la vie, l'important, c'est pas que tu ailles chuter à quelque part, c'est la manière dont tu te relèves. C'est ça qui est important. C'est là que tu montres quel genre de personne que t'es. Comment tu te relèves? Et Jonathan Drouin, s'il se relève avec succès, puis tu sais, il connaît une saison fort correcte, je pense que ce serait extraordinaire. Et qu'il l'a fait, s'il pouvait le faire à Montréal, ce serait encore mieux. Ça veut dire qu'il y aurait pas mal de panache de réussir ça. Puis moi, je pense sincèrement que les gens vont être solidement derrière lui. J'ai aucun doute là-dessus.
OK. Autre sujet que je veux aborder avec toi, c'est celui de Marc Bergevin. Parce que la fin de la saison, ça a été quoi, le 7 juillet ou à peu près? Il y a eu la pause, il y a eu le repêchage d'expansion, il y a eu la liste de protection, il y a eu le repêchage amateur, il y a eu les joueurs autonomes. On a prolongé le contrat de Dominique Ducharme. On lui a trouvé d'autres assistants. On a nommé un nouveau coach à Laval. D'autres assistants vont accompagner Jean-François Houle. Alors que Marc Bergevin, on s'attendait tous, en tout cas, ou à peu près, à la fin de la saison, se dire, bon, ben le Canadien a atteint la finale de la Coupe Stanley, personne ne les voyait là, c'est un parcours inespéré. On va sans se presser, mais on va sans doute annoncer très prochainement une prolongation de contrat pour le directeur général du Canadien, qui, soit dit en passant, a été finaliste au titre de directeur général de la Ligue nationale de hockey. Et depuis... absolument rien. On n'a rien appris. Il n'y a pas de nouvelles qui a coulé non plus. Il y a toujours une seule année à son contrat encore à Marc Bergevin. Est-ce que c'est normal, selon toi? Ou est-ce qu'on attend le début de la saison pour le faire? Ou?
Ben, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, je pense, dans le dossier de Marc Bergevin. D'abord, lui, il va falloir qu'il prenne le temps de s'asseoir avec Jeff Molson et discuter de l'avenir. Et sérieux, tu viens de le mentionner, Yannick, tout ce qu'il a fait là, depuis la fin de la saison, ça a été un feu roulant. Je pense pas qu'il y a eu le temps de s'asseoir et de prendre du recul par rapport à sa propre situation. Il a fallu qu'il signe Dominique Duchamp, puis le repêchage, puis les agents libres, puis la liste de protection pour le repêchage du Kraken de Seattle. Et le Rocket, tu l'as mentionné, ça n'a pas arrêté. Ça a été un dossier après l'autre. Il n'y a pas une journée où on n'avait pas un communiqué du Canadien annonçant telle nomination ou telle décision qui a été prise. Alors, ça l'a beaucoup occupé. Donc ça, je pense que c'est pas étonnant là, qu'il n'y ait pas d'annonce de prolongation de contrat à ce moment-là. Je pense qu'il reste simplement de temps à l'été pour faire ça. L'important, un dossier comme celui-là, c'est que ça soit réglé avant le camp d'entraînement, avant le début du camp d'entraînement, parce qu'on sait bien, au tournoi de golf du Canadien qui lance la saison, s'il y en a un cette année, on verra bien, puis il y a des entrevues de presse. Si Bergevin n'est pas sous contrat, puis il va arriver sur la tribune, puis Jeff Molson va arriver sur la tribune, on sait tous ça va être quoi la première question. Comment ça que tu n'as pas de nouveau contrat, puis à Jeff Molson, qu'est-ce qui arrive avec ça? Alors, ça, le Canadien va vouloir éviter ça. Maintenant, oublie pas une chose, c'est que moi, j'ai trouvé ça une réponse très intrigante de Marc Bergevin à sa conférence de presse débutant de fin de saison, quand les journalistes lui ont demandé 2 à 2 ou 3 reprises là, s'il voulait rester, prolonger son contrat et tout, puis il a répondu « Il me reste une année à mon contrat, puis j'entends l'honorer. » Tu sais, il a pas dit « Oui, je souhaite, puis oui, il reste une année à mon contrat, j'entends l'honorer, puis j'espère être ici longtemps. » Non, 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 il a juste dit « Il reste une année à mon contrat, puis j'entends l'honorer. » Puis il l'a dit d'un air très, très, d'un ton très sec. Il n'y avait pas beaucoup de « Oh, oui, j'aime ça, puis je veux rester, puis ça. » Il n'y a rien eu de ça. Ça, là, ça lève tout de suite un drapeau. Donc, est-ce qu'il est encore heureux? Est-ce que, tu sais, on ne sait pas. Cela dit, on peut dire qu'il était fatigué, il doit tenir des séries de la Coupe Stanley et tout, mais quand même, le ton était pour le moins bizarre. Moi, là, c'est une réponse qui m'a beaucoup, beaucoup surpris. Puis la question lui a été posée à 3 reprises, là, je pense 2 fois en français, 1 fois en anglais ou l'inverse. Et puis, il n'est jamais dérogé de sa réponse. Tu ne peux pas dire, oh, si je viens que ça une fois, mais la fois d'après, il était plus enthousiaste. Non, 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 ça a été la même chose à chaque fois. En fait, la première fois que la question lui a été posée, il n'a pas répondu à la question. Il a passé complètement à côté de la question. Là, elle a été reposée en français et en anglais, puis il a dit la même chose. Donc, ça a été ça les 3 fois dans la conférence de presse. Moi, je me souviens, j'ai fait une chronique à ce moment-là dans la presse. J'ai dit, c'est vraiment une réponse intrigante. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais? Et parce que, justement, il aurait dû théoriquement être beaucoup plus enthousiaste. Alors, ça, c'est déjà ça. Donc, tu sens, est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce que... je ne sais pas. Mais là, arrive après ça l'affaire de Logan Mailloux. L'affaire de Logan Mailloux, là, pour Bergevin, c'est sûr que ça, c'est pas un choix là, qui fait en sorte que son blason comme directeur général du Canadien va monter. Là. Ça a mis l'organisation dans l'embarras. Jeff Molson a été obligé d'émettre un communiqué, de répondre aux questions, de s'excuser. Ils ont été obligés de dire qu'ils ne viendraient pas au camp d'entraînement, tout ça. Et là, après ça, il y a eu les propos de Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale, qui, dans une entrevue à la radio, en a remis une couche, a dit que le mot « surpris » n'était même pas suffisant pour définir sa réaction quand il a appris que le Canadien avait choisi Logan Mailloux. T'sais. Alors, ça, là, pour le Canadien, là, c'est un méchant problème. Et là, c'est Bergevin qui est responsable de cette décision-là. Jeff Molson l'avait sans doute approuvé. Mais là, tu sais, dans une organisation, quand arrive quelque chose comme ça, là, ça laisse des traces. Là. C'est pas vrai que tout le monde passe à autre chose là, une fois qu'on a, disons, éteint le feu publiquement. Le feu a été éteint, là, passablement, publiquement, avec les propos de Jeff Molson. Mais il en reste pas moins que dans l'organisation, ça reste, là, parce qu'ils ont dû passer 5 jours infernaux là, à régler ça. Ah oui. Écoute, quand le premier ministre du Canada s'en mêle, puis que le commissaire de la Ligue s'en mêle, puis, tu sais, c'est pas rien. Alors, jusqu'à quel point tout ça aura également une influence sur l'avenir de Bergevin. Comment Jeff Molson réagit à tout ça? C'est quoi le lien aujourd'hui entre Jeff Molson et Marc Bergevin? C'est quoi le niveau de confiance? Ça non plus, on le sait pas, parce que Jeff Molson est très peu accessible. Il a donné une conférence de presse sur l'affaire de Mayhew, mais dans un environnement extrêmement contrôlé, là, où tout le monde n'était pas admis, si j'ai bien compris. Ouais. Puis après ça, il a rien fait d'autre. C'est tout. Alors, tu sais, on peut pas vraiment jauger de son état d'esprit à l'heure actuelle, puis on peut pas jauger de l'état d'esprit de Bergevin. Tout ce qu'on en sait, pour l'instant, c'est qu'il avait pas l'air très enthousiaste, en tout cas, quand il a parlé de son avenir à Montréal à la conférence de presse de fin de saison. Mais encore une fois, est-ce que c'était de la fatigue? Est-ce que c'était, tu sais, un certain épuisement? Je sais pas. Mais, tu sais, tout ça, moi, tu sais, le dossier reste ouvert, disons. C'est difficile de répondre à la question, mais c'est sûr que l'affaire Mayhew devient un élément supplémentaire au dossier de Bergevin. Je pense pas que c'est un élément positif, là, c'est sûr. Par contre, sa fin de saison, le parcours du Canadien en séries éliminatoires est extrêmement positif. Alors, c'est une situation qui est assez délicate, je pense.
Philippe, très intéressant. On va avoir le temps de s'en reparler. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour jaser un peu et puis au plaisir de le refaire bientôt.
Ben, c'est toujours le fun, Yannick. Bonne émission, puis merci de m'avoir invité.
Merci, à bientôt. Okay. Salut bien, bye-bye. Oh. Philippe Quentin, donc, qui nous parlait des Olympiques, qui nous parlait également du Canadien. On va reparler des Olympiques avec Marc Durand du côté du Japon un petit peu plus tard au cours de l'émission. On s'arrête et on revient dans quelques instants aux amateurs de sport. À venir, après les informations, notamment, il y aura Ray Lalonde avec la chronique Sport et Affaires. Ray qui sera avec nous pour nous parler du poids de cette transaction qui a fait passer Marc-André Fleury de Vegas à Chicago.